I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. C'est toujours quelque chose de se construire quand nos modèles ont du panache. De trouver sa place aussi parfois quand nos parents forment un couple légendaire. Eh bien, Léa a trouvé la solution. Faire comme eux.
Mes parents se sont rencontrés dans les années 70. Ma mère part en vacances en Sicile avec sa sœur et une copine. Et donc, elle décide de faire de l'autostop à Palerme, parce que voilà, ils n'ont pas de voiture. Et donc, ma mère, elle le pousse dehors sur une voie de train, je crois. Et mon père s'arrête avec sa Fiat 500, ce qui est quand même assez iconique, parce que c'est quand même la voiture italienne à cette époque-là. Et donc, mon père s'arrête et dans sa voiture, il prend donc ma mère et sa sœur et sa copine. Et je pense que mon père a un coup de fou pour ma mère. Bon, il nous l'a jamais dit comme ça, mais je pense quand même. Et donc, il leur propose de venir au restaurant de son père, donc de mon grand-père, qui avait un restaurant de plage dans une ville à côté de Palerme. Et donc, ma mère va dans ce restaurant, donc elle rencontre son futur beau-père, ce qu'elle ne sait pas encore. Et bon, le seul problème, c'est que ma mère vient de Normandie, hein, et mon père est donc sicilien et habite à Palerme. À cette époque-là, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de téléphone portable. Appeler juste au téléphone, ça coûte très cher. Donc, le seul moyen, c'est des lettres ou des télégrammes, mais même les télégrammes, je crois que c'est pas donné. Donc voilà, donc c'est pas la communication la plus facile. Il y a quelque chose qui se passe, que moi j'ai des photos d'eux à l'aéroport quand mon père dépose, donc ma mère qui repart en Normandie, et tu vois déjà que mon père est très attaché et que ma mère est pas indifférente. Enfin, sur les photos, il y a clairement quelque chose qui passe entre eux. Et ils s'écrivent des lettres pendant très longtemps, donc la chance qu'ils avaient, c'est que mon père était très passionné de poésie et de littérature, donc il parle plutôt pas mal français. D'ailleurs, il y a le carton de lettres à la maison, hein, doit y avoir une centaine de lettres, ou même peut-être plus. De côté mon père, c'est extrêmement romantique. C'est des « mon amour, tu es tout pour moi ». Et il lui raconte plein de choses. Des fois, il lui parle de poésie, de ce qu'il a fait, que ma mère lui manque. C'est très très romantique, en fait. Et en fait, ils se racontent tout, puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens de communication. Et je sais qu'il y a eu un moment où la décision a été prise que ma mère aille vivre en Sicile. Donc ma mère est partie quelques semaines pour essayer. Sauf que voilà, la vie en Sicile, à cette époque-là, c'est quand même extrêmement différent de la vie en France. C'est-à-dire que c'est très familial, les gens vivent en communauté, les gens vivent dans la rue, tout le monde est dehors. Si on n'est pas habitué, ça peut être très intense. Contrairement à la vie, bon voilà, à Rouen, en 74, c'est une vie plus rangée, plus voilà, tranquille. Ma mère a un peu de mal parce qu'elle se sent étouffée. C'est une culture qui est très forte, en fait, donc c'est difficile pour elle. Donc elle décide de rentrer et elle tombe malade. J'ai quelque chose d'assez grave. Et donc, elle écrit à mon père en disant, écoute, elle lui envoie un télégramme en disant, écoute, je suis malade, je suis à l'hôpital. Donc, ne t'inquiète pas, si tu n'as pas de lettre, c'est parce que je peux pas t'écrire. Et donc, mon père, avec son meilleur ami, qui est aujourd'hui mon parrain d'ailleurs, il prend sa Fiat 500 qui est remplie et il prend le bateau à Gênes avec la Fiat et il monte jusqu'en Normandie. Et il arrive à l'hôpital et il dit à ma mère, voilà, je suis là, j'ai tout quitté pour toi, épouse-moi. Et donc, ma mère, au lieu d'avoir peur, eh ben, elle dit oui. Et donc, en 1976, donc je pense que ça a dû être 2-3 ans de relation, mais même pas, ils se marient. Et c'était pas forcément facile, puisque mon grand-père français, du coup, acceptait pas forcément mon père. Il y avait l'émigration en Normandie, je pense que c'était pas quelque chose de très fréquent à cette époque-là, donc voilà. J'imagine que pour mon père, ça a dû être très difficile de s'adapter. Mais il l'a fait par amour, en fait. Il aimait ma mère. 4 ans après leur mariage, mon frère est né. Moi, je suis née, donc mon frère en 80 et moi, je suis née en 90. Donc voilà, mon père, sa vie était en France et puis c'était comme ça, quoi. Il se posait pas plus de questions, quoi. Après, on avait l'Italie à la maison, on avait la télé italienne, on écoutait la musique italienne. Moi, j'ai grandi avec Eros Ramazzotti et Laura Pausini. Voilà, mon père cuisinait des pâtes tout le temps, parce qu'évidemment, il cuisine très bien, du coup. Donc bon, je pense qu'il avait réussi à ramener beaucoup de sa culture à la maison. C'est complètement un modèle, surtout que mon père est extrêmement romantique, extrêmement amoureux de ma mère. Donc il la couvre de cadeaux, il la couvre de bisous. Je vois beaucoup de signes d'amour à la maison, beaucoup de disputes aussi, parce que mon père a un très fort caractère. Et ma mère aussi. Et mon père est extrêmement romantique. Il fait tout pour ma mère. C'est-à-dire que ma mère, c'est une princesse. Je crois que ma mère n'a jamais épluché un fruit de sa vie depuis qu'elle est mariée avec mon père. Avec mon père, quand on mangeait à table, il épluchait tous les fruits de ma mère, pour donner une idée du niveau de passion de mon père pour ma mère. Et surtout que quand j'avais 10 ans, mon frère a épousé une franco-malgache. Et donc, mon frère aussi s'est marié quelqu'un d'une culture différente, qui a grandi à Madagascar. Et du coup, ça m'a aussi imprégnée, puisque moi, j'étais petite, donc je voulais toujours être avec mon frère. On a 10 ans d'écart. Et j'allais beaucoup avec lui à des soirées malgaches, qui est une communauté malgache assez importante dans la région parisienne et à Paris. Donc j'ai grandi un peu comme ça, en fait, mélangée entre la culture italienne, la culture malgache, la culture africaine. Je tombais toujours amoureuse des gens qui n'étaient pas la même culture que moi. Quand j'ai 17 ans, par des amis communs, je rencontre un garçon. On tombe très amoureux, voilà, on a 17 ans, moi je suis en terminale. C'est ma première grande histoire d'amour. Le seul souci, c'est que lui vient d'un milieu plutôt bourgeois catholique, plutôt traditionnel, qui ne m'accepte pas vraiment. Ma mère est catholique, mais mes parents viennent plutôt de milieux populaires, donc je berce pas dans le même milieu qu'eux. Mais voilà, je suis partie des scouts, donc il est aussi dans les scouts, donc c'est tout un groupe d'amis que j'ai en fait. Et voilà, on est très amoureux. Quand moi je pars à la fac, lui est encore au lycée. Je pars à la Sorbonne étudier l'histoire de l'art pendant 2 ans. Et lui, quand il finit le lycée, il décide de s'engager dans l'armée et il est pris dans un régiment de parachutistes dans le sud de la France. Et au début, on est à distance, hein, c'est-à-dire que moi, je le vois tous les 2 mois, peut-être, ça dépend. Moi, je suis toujours à Paris. Et au bout de quelques mois, il me demande en fiançailles. Donc, j'ai 20 ans, ou non, j'ai 19 ans même. Et j'accepte. J'accepte de me fiancer. Et il me dit aussi, écoute, rejoins-moi dans le sud de la France. Et on fait notre vie ensemble, quoi. Et donc, moi, à l'époque, je suis pas très bien à Paris, parce que mes parents sont partis sur la Côte d'Azur, donc je suis un peu seule. C'est une année où il y a eu beaucoup de grèves à la fac, donc j'ai pas eu cours pendant presque 8 mois, donc je suis pas très bien. Et donc je me dis, bah écoute, je le fais quoi, je quitte tout et je le suis. Mon père est pas trop d'accord. Il me fait comprendre que je me trompe, mais bon, moi à l'époque, je veux pas l'entendre. Et voilà, je quitte tout et j'ai l'impression d'être mon père, quoi. J'ai l'impression d'être une héroïne et que rien ne peut m'arriver. Donc évidemment, je cherche des nouvelles études, je trouve un appartement. Lui est en mission à ce moment-là, donc il n'est pas là, donc moi je prépare tout. Je pense que j'ai peur de rien à ce moment-là, je me sens puissante. Et donc lui rentre de mission, la première semaine tout va bien. Et malheureusement, au bout de 2 semaines, il me fait comprendre qu'en fait, il m'a trompée pendant cette mission plusieurs fois. Et qu'en fait, il a envie de s'amuser et qu'il veut pas s'engager. Et qu'en fait, c'est fini et qu'il faut que je parte, quoi. Donc évidemment, moi là, je m'écroule littéralement. Puisque en fait, je me rends compte que j'ai tout quitté pour rien. Puisque dans cette ville, j'ai clairement pas envie de rester. Donc j'appelle mes parents au secours. Mon père ne se gêne pas de me dire que j'ai fait une belle connerie. Ma mère est plus compréhensive et me rattrape à la petite cuillère. J'ai l'impression d'avoir complètement échoué, d'être une ratée. Et tout ce que je veux, c'est fuir. Donc je fuis et je pars chez mes parents sur la Côte d'Azur. J'ai l'impression que jamais je ne pourrai retrouver ce que j'ai trouvé avec ce garçon. Que jamais plus je me fiancerai, que j'en serai incapable. Évidemment, on est quasiment en septembre, donc c'est trop tard pour m'inscrire à une fac ou quoi que ce soit. Donc je me dis, bah, pendant 1 an, tu vas travailler et tu reprendras tes études l'année prochaine, mais tu restes pas à la maison à rien faire parce que déjà tu vas couler. Donc je décide de chercher un travail et je me rends compte que j'ai une copine de Normandie qui habite aussi sur la Côte d'Azur et qui travaille dans un espèce de magasin de décoration un peu bazar et qui me dit, écoute, il cherche quelqu'un, viens. Et donc je suis embauchée dans ce magasin. Ça m'aide à me reconstruire et à me dire, bon, j'ai ça pendant 1 an. Avec cet argent, je pourrais faire des choses. Donc cette même copine, elle est en couple avec un ingénieur informatique qui travaille dans une grosse boîte d'informatique sur la Côte d'Azur à Sofia Antipolis. Elle me dit en novembre, il y a une soirée d'anniversaire, c'est chez des Espagnols, viens. Et je lui dis non, je ne veux pas m'incruster quand même à une soirée d'anniversaire, ça se fait pas quoi. Elle me dit non mais non, pas du tout, c'est juste une excuse pour faire une fête, viens, il y aura plein de monde. Tu vas voir, c'est génial, viens. Moi je suis très angoissée. Parce qu'à l'époque, surtout, je suis assez introvertie. J'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être jugée. Puis après ma rupture, je suis mal. Donc je suis très angoissée, mais je me dis, il faut que je le fasse, quoi. Elle m'a invitée, il faut que j'y aille. Je peux pas rester toute seule sans amis. Non, il faut que j'y aille. J'arrive dans cette maison qui est au fond d'une cour, d'un immeuble. Il y a déjà beaucoup de bruit, beaucoup de musique. On ouvre la porte et ce que je vois, c'est un garçon avec les cheveux noirs, une chemise noire, derrière le bar, le poing levé, un verre de certainement whisky Coca-Cola à la main, en train de faire la fête, enfin d'être content et de sourire et de boire. Et il nous voit et il dit « Ah, Caro, donc c'est ma copine. » Et donc il vient tout de suite, il sait que je suis invitée, donc il est assez aimable de se présenter, et moi je me présente. Et donc c'est une bonne première impression, il y a un espèce de petit coup de foudre. Enfin, je sais pas si c'était un coup de foudre, mais il y a quelque chose qui se passe, je le vois. il m'impressionne. Et puis son sourire, le fait qu'il soit tellement heureux, tellement joyeux, ce que moi je ne suis pas du tout à ce moment-là, ça me procure du bien-être. En fait, je me sens bien avec lui. Mais je suis extrêmement intimidée aussi, c'est-à-dire que je ne connais personne. Il y a beaucoup de gens de partout, il y a des Italiens, des Hollandais, des Anglais, des Français. Moi, je parle très mal anglais, donc je suis aussi extrêmement mal à l'aise, parce que mon anglais est très scolaire, mais très mauvais. Et comme je me sens déjà comme une ratée, j'ai pas envie que les gens remarquent que je suis vraiment une ratée, en fait. Donc, je passe la soirée collée à ma copine, je suis pas très à l'aise. Donc, ce fameux garçon qui s'appelle Pedro, lui, s'amuse, hein, c'est son anniversaire, donc il s'éclate, il embrasse une fille, il embrasse une autre, mais sans plus, quoi, vraiment pour s'amuser. Et moi, à un moment, je suis derrière le bar de la cuisine, donc il vient me voir et il me dit « Bon, bah, tu m'embrasses ». Moi, je suis un peu étonnée. Je dis « Bah non, en fait, enfin, déjà, de un, je te connais pas. Et de deux, t'as embrassé quatre filles avant moi, ou trois, je sais plus. » Et lui, il est un peu étonné. Parce qu'en fait, je pense qu'il est habitué à, voilà, au fait, les filles s'amusent, les mecs s'amusent, tout le monde s'embrasse, et puis c'est comme ça, c'est fun, il y a rien derrière. Et moi, je suis terrorisée et j'ai pas du tout envie. Il fait 1m70, donc il est ni grand ni petit. Il est plutôt clair de peau. C'est cliché, hein, mais pour un Espagnol, moi, je m'imagine Javier Bardem, c'est-à-dire un grand ténébreux. Et Pedro, il est plutôt, voilà, taille moyenne et plutôt blanc, clair de peau. Et il a les cheveux noirs, il a du gel dans les cheveux. Je pense que je passe outre le physique parce qu'il y a un truc, en fait, vraiment chez lui. Il est beau et il est extrêmement joyeux et extrêmement gentil. Et en fait, on a juste envie d'être amis avec lui. Et d'ailleurs, il est ami tout le monde et tout le monde l'adore. Ça se voit à la soirée. Tout le monde veut être avec Pedro parce que c'est celui qui est fun. Donc il y a un truc, mais c'est juste que moi je suis terrorisée et en plus j'apprends qu'il a 27 ans. Moi je viens d'avoir 20 ans quand je le rencontre. Moi 27 ans, j'ai l'impression qu'il en a 90 en fait. Enfin, à l'époque, quand on a 20 ans, on se dit vraiment mais 27 ans, mais il a de l'expérience, il a fait plus de choses que moi. Mais je crois que ma copine me raconte qu'il vient de rentrer de Chine, qu'il a fait un double diplôme avec la France et l'Espagne, que c'était un Erasmus. Et moi je me dis mais je suis pas du tout à la hauteur, c'est impossible. Je veux dire, moi je travaille dans un magasin de décoration, je viens de me faire lâchement larguer, j'ai arrêté mes études pour un garçon, j'ai très très honte. La soirée se termine, on rentre chacun chez soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les voit très souvent parce qu'il y a beaucoup de soirées. Et moi, Pedro m'attire, mais Pedro, il est dans un mode où, en fait, il veut juste s'éclater. Après, moi, je suis aussi très subtile parce que je suis très timide. Donc, je ne lui montre pas clairement qu'il m'intéresse. Et donc, je l'ajoute sur Facebook. Donc là, je pense qu'il comprend que je m'intéresse à lui. Et donc, il me propose d'aller boire un verre à Antibes. Et donc, moi, je sors du travail, mais moi, même au travail, je suis habillée plutôt correctement. Et donc, moi, je m'attends un peu, je dis, bon, c'est notre premier mini rendez-vous. Voilà, pas qu'il mette un costume-cravate, mais je me dis, il va être mignon, quoi. Et en fait, pas du tout. Il arrive en chaussures de randonnée, un jean trop large et une veste de ski, un peu. Bon, je passe outre, hein, mais c'est vrai que je suis étonnée. Mais on boit le verre, c'est sympa. Et encore une fois, moi, j'ai cette image aussi un peu de par mon père. Mon père est quand même assez macho, assez traditionnel. Mon père avait toujours le geste de sortir de la carte bancaire à son nom, lui. Mais pas macho dans le sens tu es inférieur à moi, mais plus dans le sens tu es ma princesse donc je te gâte. Je suis encore très ancrée avec ça parce que c'est comme ça que j'ai vu mes parents en fait grandir. Et donc moi je sors un billet pour payer le verre parce que voilà, je vois que ça se termine pas ou je sais pas pourquoi et donc je m'attends à ce qu'il dise non, c'est bon, c'est pour moi. Mais lui ne le fait pas. Parce que lui de son côté, il trouve ça super, il dit c'est génial une fille qui paye, ça lui plaît que je fasse ça. Alors que moi je suis un peu étonnée, je me dis ah tiens, il a rien dit quoi. Mais encore une fois, c'est des pensées un peu archaïques que moi j'ai, mais parce que voilà, mon père était extrêmement galant et comme ça avec ma mère. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il me ramène donc à ma voiture qui est garée sur un parking et il m'embrasse. Moi, je suis contente qu'il m'embrasse, mais en même temps, à l'intérieur, je suis terrorisée. Parce que je me dis, bon, bah là, s'il m'embrasse, c'est parti en fait. C'est parti et il faut que je sois à la hauteur. Et je ne me sens pas du tout à la hauteur, donc je panique complètement. Je monte dans ma voiture et je fonds en larmes. Je pense parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur de l'abandon, j'ai peur de ce qui s'est passé avec mon ex. Je suis terrifiée parce que je pense vraiment que je suis pas du tout à la hauteur, que lui a beaucoup plus d'expérience que moi. Qu'en fait, on va avoir des relations ensemble une fois et puis il va me jeter comme m'a jeté mon ex. Il va dire, mais non, enfin, t'es une gamine, en fait, au revoir. S'il me plaît, il y a un truc chez lui qui est différent. Et donc, je décide d'envoyer un message à Pedro, pas très gentil, en lui disant... Je veux plus jamais te revoir, je suis pas comme ça, c'est fini, ne me contacte plus. Enfin, un message très froid, très méchant. Hein. Comme si presque il m'avait forcé à l'embrasser, mais pas du tout. Je me dis, bon, c'est bon, il va plus jamais me répondre. Et il me répond d'accord. Et deux minutes après, même pas 30 secondes après, il m'envoie un autre message en me disant, est-ce que tu veux venir manger une pizza faite maison ce soir? Et moi, je tombe des nues, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Et donc, j'accepte parce que ma copine vient avec moi. Évidemment, ça se passe très bien, c'est un amour. Il fait toutes les pizzas lui-même, il met du camembert parce qu'il sait que je suis normande sur la pizza, les pizzas sont délicieuses, on parle, c'est doux. En décembre, il part en Espagne pour les fêtes. Et moi, je me dis, en fait, il va falloir que je saute le pas parce que, en fait, moi, à ce moment-là, c'est moi. Hein. Encore une fois, c'est que moi, ce n'est pas lui. Moi, j'ai peur de le perdre. Je me dis, si je n'ai pas de relation sexuelle avec lui, il va me jeter, quoi. Il va en avoir marre d'attendre. Ce qui, encore une fois, n'est pas ce que lui me transmet, mais c'est ce que moi, je ressens. Quand il rentre d'Espagne, voilà, on a notre première relation sexuelle qui, d'ailleurs, passe très bien parce qu'il est extrêmement gentil, il est extrêmement doux. C'est exactement comme j'aurais pu l'imaginer ou le rêver. Et bien sûr, évidemment, il ne me jette pas le lendemain en me disant que j'ai été nulle. C'est comme ça que notre relation commence, donc on est mi-janvier. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, fin janvier, je tombe très malade. Donc mon médecin me diagnostique une grippe, j'ai de la fièvre, mal à la tête. Ouais, mais une grosse grippe quoi, qui dure. Et donc au bout d'une semaine, je suis chez lui et je suis vraiment pas bien. Donc je crois qu'il même il me porte et il me couche dans le lit. Et en fait, en pleine nuit, il est réveillé parce que je lui donne des claques. Donc il se réveille, il me regarde et en fait, il découvre que je suis en train de convulser dans le lit. Et je tombe dans un espèce de sommeil. Donc là, il hurle, il appelle ses colocs en espagnol en disant « appeler une ambulance ». Et donc, de ce qu'on me raconte, c'est qu'à l'hôpital, en fait, je suis comme un peu folle, en fait. Je coince ma tête entre les barreaux du lit, je dis des choses incohérentes, je regarde dans le vide. Comme si je faisais une crise de folie, mais très bizarre, comme si j'étais plus là, en fait. Donc, je crois que les médecins ont appelé ça un semi-coma ou un état second. Et donc, les médecins, en fait, savent pas ce qui se passe. Donc, Pedro se retrouve à appeler mes parents qu'il ne connaît pas, du coup, en pleine nuit, en leur disant, écoutez, voilà, je suis l'amie de Léa, elle est à l'hôpital. Et donc, Pedro rencontre mes parents comme ça, en fait. Ma mère est très angoissée. Et en fait, les médecins lui disent qu'ils pensent qu'en fait, je fais une crise de folie due à ma précédente rupture. Et qu'en fait, le mieux, c'est de m'interner en psychiatrie. Et ça, je ne sais pas comment, mais j'imagine qu'un médecin a le réflexe de dire, bon, quand même, on va voir si elle a pas autre chose. On me fait une ponction lombaire, on me fait un électroencéphalogramme. Et on découvre que j'ai une encéphalite. Les gens connaissent plus la méningite. Je suis pas médecin, mais la méningite, en gros, c'est les méninges qui sont attaquées. Et l'encéphalite, je crois que c'est tout le cerveau, tous les nerfs qui sont attaqués. Donc, de ce qu'on m'a dit, c'est plus grave. Ou ça peut avoir plus de conséquences. Mais dans tous les cas, les deux sont graves. Et donc, les médecins me mettent sous traitement tout de suite, sous antiviraux, antibiotiques. Et moi, je me réveille 4 jours après, je crois. Je me réveille le jeudi à l'hôpital, branchée de partout. Avec une infirmière espagnole, d'ailleurs. Et qui me dit, bah oui, c'est Pedro qui t'a emmené ici. Mais moi, à ce moment-là, je sais pas où je suis. Je lui dis, mais attendez, qui est Pedro? Tu me dis qu'on est jeudi. Moi, mon dernier souvenir, c'est dimanche. C'est-à-dire que j'ai perdu 4 jours de ma vie, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc on me raconte. Moi, je suis encore très faible. Hein. Miraculeusement, je n'ai aucune séquelle grave. Et je me dis, bah c'est fini, quoi. Pedro, il va jamais revenir. Enfin, voilà, il a vu une folle. Ça fait même pas un mois qu'on était officiellement ensemble. Voilà, il va fuir. Il est là, il reste et il est avec moi. Je me dis, mais vraiment. S'il reste, c'est qu'il est fou, quoi, ce garçon, de rester. Donc, voilà, je sors de l'hôpital. Et là, notre relation commence vraiment. C'est-à-dire qu'on fait des choses ensemble, on se découvre plus. Lui m'avoue qu'en fait, il m'avait dit qu'il m'aimait à l'hôpital. Moi, je lui dis que je l'aime, je crois, un mois ou deux après. Donc, du coup, lui, en fait, il est encore dans sa tête très, très jeune, en fait. Il est encore... c'est pas qu'il est immature, il est extrêmement mature. Mais il est en mode encore jeune, faire la fête. Donc moi, ça match parfaitement avec moi qui n'ai que 21 ans, quoi. Moi, je reprends des études en alternance avec une entreprise. Donc je travaille à moitié. On fait des allers-retours entre chez lui et chez mes parents. Donc on dort plus souvent chez lui quand même. Mais on dort aussi beaucoup chez moi. On fait la fête. Et un an après, du coup, en 2013, ma maman tombe malade. Donc on découvre qu'elle a un cancer des ovaires. Stade 3, donc plutôt avancé. Mais voilà, on nous dit qu'elle va être soignée, que ça va aller. Donc bon, voilà, on commence son traitement. Et au bout de 6 mois, elle est en rémission. Super. Et au même moment, donc début 2014, Pedro m'annonce que sa boîte veut le muter à Boston. Et ça tombe plutôt bien parce que moi, j'en ai un peu marre de la Côte d'Azur. J'ai eu du mal à m'intégrer, à me faire des amis. Je me sens pas très à l'aise, voilà, dans cette région. Et j'ai envie de partir. Donc je me dis, bah écoute, c'est super. Sauf que bon, ce n'est pas mon projet, c'est son projet. Ce n'est pas mon travail, c'est son travail. Donc il y a plein de questions qui se mettent en place. Est-ce que tu pars tout seul? Est-ce qu'on se marie pour que j'ai un visa et on part ensemble? Est-ce qu'on reste ensemble mais on fait une relation à distance? Et très vite, la relation à distance, moi, je veux pas parce que j'y arrive pas, je suis pas quelqu'un doué pour ça. Et donc, il nous reste, tu pars tout seul ou tu ne pars pas du tout, mais moi, je veux pas l'empêcher de partir. C'est-à-dire que quand on est ingénieur informatique, un poste aux États-Unis, c'est une grosse opportunité quand même. Donc, je voulais pas qu'il refuse. Mais se marier, bon, moi, je suis jeune, j'ai 23 ans, ça fait 3 ans qu'on est ensemble à peu près, je me sens pas prête et lui non plus. Mais on se dit, écoute, on va le prendre comme un papier de plus pour les États-Unis, on va faire un contrat de mariage. Comme ça, si ça marche pas qu'on se sépare, il y aura rien à faire. Et on se dit, on fait pas de fête, on fait rien, on le dit à personne. Nos parents sont les témoins, mais c'est tout. On part aux États-Unis en août 2014. On part heureux, on part, ma mère est en rémission, tout va bien se passer, ils vont venir nous voir. C'est une super expérience. Moi, je trouve du travail assez vite, au bout de 3 mois, dans une école maternelle privée franco-américaine. Donc c'est super, je m'intègre aussi. Je parle de mieux en mieux anglais. Sauf que ma mère rechute. On garde l'espoir, tout va bien. Voilà, notre relation avance. moi, un petit pincement au cœur, parce que je pense qu'au fond de moi, je m'étais dit, bon, bah, maintenant qu'on s'est marié, entre guillemets, à la mairie, il va me demander en mariage pour de vrai. Sauf qu'en fait, ça ne vient pas. Et donc, on a beaucoup de discussions sur le fait que lui ne se sent pas prêt. Et donc, moi, encore une fois, cette peur de l'abandon revient en me disant, mince, j'ai tout quitté pour un garçon, il va encore me quitter. Et en 2016, du coup, maman, vraiment, ça va pas, quoi. Elle rechute tout le temps. Donc, je commence à me rendre compte qu'ils vont pas la sauver, en fait. Et du coup, pendant les vacances d'avril, je décide d'aller la voir. Parce qu'en plus, j'ai un mariage en Normandie de ma meilleure amie d'enfance. Et donc, je pars voir ma mère sur la Côte d'Azur. Et pendant que je suis avec elle à l'hôpital, on passe une semaine ensemble, ma meilleure amie d'enfance me dit qu'en fait, mon ex-fiancé, que je n'ai pas vu depuis 2010, sera présent au mariage. Pour moi, c'est extrêmement difficile à ce moment-là de l'entendre parce que je n'ai pas vu ce garçon depuis 2010 et je pense que je ne suis pas vraiment guérie. Et donc, je finis par le dire à Pedro et Pedro fait un truc que je suis extrêmement reconnaissant. Il prend un billet d'avion en dernière minute et il me rejoint pour le mariage, pour être avec moi. Donc voilà, donc moi je suis extrêmement heureuse. Voilà, donc Pedro vient avec moi à ce mariage. Et malheureusement, quelques semaines après, ma maman est vraiment très mal. Donc c'est fin mai. Donc j'y retourne, je passe 15 jours avec elle. Et voilà, on comprend que c'est la fin. Moi je refuse de laisser ma mère. Mais ils vont me dire, voilà, c'est la fin, elle va mourir. Enfin, elle va juste arrêter de respirer un moment. J'ai 25 ans. Je refuse de la laisser. Donc je reste avec elle nuit et jour. Et je dis, si elle doit partir, elle partira avec moi. Évidemment, elle ne part pas. Et des infirmières me disent qu'il y a des gens qui, des fois... ne veulent pas partir, ils veulent partir seuls en fait. Et surtout que ma mère et moi, on avait une relation extrêmement fusionnelle. Et puis, machinalement, à un moment, je demande à Pedro son téléphone, parce que le mien n'a pas de réseau dans l'hôpital, pour envoyer un texto à une copine justement pour lui dire ce qui se passe. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il y a un message d'un copain qu'on a en commun à Boston. J'ai plus quelle phrase m'intrigue, mais donc j'ouvre le message machinalement en fait. Sans chercher à fouiller, juste j'ouvre le message machinalement, et là, qu'est-ce que je vois? Des photos de bagues de fiançailles. Donc là, je me rends compte que j'ai bien surfait une grosse boulette, que je n'aurais pas dû voir ce message. Voilà, mais moi, je suis à autre chose. En fait, ma mère va mourir. Bon, j'ai fait une boulette. Donc, je suis aussi entre la joie de me dire « Oh, il va me demander en fiançailles, mais ma mère est en train de mourir. » Et ma mère décède. Ça, c'est juin 2016. Dans ma vie, c'est clairement un tournant. Dans notre couple aussi, puisque c'est une épreuve difficile. Et je vois que Pedro est là, qu'il me soutient, que je peux compter sur lui. Et puis la vie continue, moi je repars à Boston et il faut reprendre le travail, ce qui m'aide en fait de reprendre le travail. En septembre, Pedro me dit qu'on part en week-end. Il loue un phare sur une île, c'est extrêmement romantique, on dort dans le phare, on est dans la partie basse donc on voit la mer, c'est magnifique. Et il achète un grand carnet avec des pages blanches vides et il imprime plein de photos de toute notre histoire avec plein de stickers et il dit viens on va se faire un album photo. Et moi, j'adore ça, donc je suis très excitée. Donc, je colle des photos dans l'ordre chronologique. Je mets les stickers qu'il faut à côté, c'est génial. Et je prends toute l'après-midi pour faire ça. Et en fait, dans le phare, il n'y a pas d'électricité. Donc, en fait, on s'éclaire avec une espèce de lampe torche le soir. Et je vois Pedro qui est un peu nerveux, mais je ne me doute de rien. Donc, on regarde l'album photo. Je ne sais pas comment, à la fin de l'album photo, il avait glissé un papier où il y avait écrit « Ceci est la fin ». Non, c'est juste le commencement. Et donc là, il fait complètement nuit. Et Pedro se met à genoux. Et me demande en fiançailles. Donc moi, je fonds en larmes. Évidemment, je lui dis que oui. Il me met la bague au doigt, sauf que bien sûr, je ne la vois pas puisqu'il fait nuit. Évidemment, je l'adore. C'est merveilleux. Moi, je suis complètement excitée. Évidemment, j'ai des gens qui me disent « Mais t'es déjà mariée ?» Non, on n'est pas mariés. Enfin, oui, officiellement. Notre mariage, le vrai, c'est celui qui va arriver dans un an. On décide de se marier en Espagne parce que Pedro est très attaché à ses origines. Très attaché au village où il a passé son enfance, où tous ses oncles et tantes, ses grands-parents, beaucoup de gens se sont mariés dans sa famille. Donc on prépare ça à distance pendant un an. Dans le mariage, il y a beaucoup d'attention et de rappel pour ma mère, hein, la couleur des fleurs, le type de fleurs qu'on a choisi, ma robe de mariée. C'est Pedro qui me coud mon voile, parce que je ne trouve pas le voile que je veux. Donc Pedro m'achète le tissu et me coud mon voile de mariage, donc c'est quand même un joli symbole. Et quand arrive le jour J, voilà, on est très heureux. L'église est magnifiquement décorée. Et ma belle-sœur, donc la femme de mon frère qui est malgache, chante extrêmement bien. Et à l'enterrement de ma mère, elle avait chanté, parce que ma mère l'avait souhaité, l'Ave Maria. Et donc je demande à ma belle-sœur de chanter cette même chanson à mon mariage à l'église. Donc déjà ce qui se passe, c'est qu'au moment d'échanger nos vœux, à la base, moi je voulais échanger mes vœux en espagnol et que Pedro le fasse en français, pour vraiment montrer qu'on échange nos cultures. Mais le prêtre nous avait dit « Non, non, il faut que vous fassiez dans les deux langues, parce que vous aurez beaucoup plus d'émotions quand vous le direz dans votre propre langue ». Et il n'avait pas tort, puisque je dis mes vœux en espagnol, et quand arrive le tour de le dire en français, je fonds en larmes. Je suis très très émue. Pour moi, c'est comme l'accomplissement de mon rêve, quoi. Ça y est, Pedro a accepté de se marier avec moi. Je suis la femme de sa vie, c'est génial. Ce garçon si parfait va se marier avec moi. Donc évidemment, je suis très émue. Ma belle-sœur chante l'Ave Maria, donc tous les gens présents à l'enterrement, évidemment, font le parallèle. C'est extrêmement puissant. Et ensuite, on est parti faire la fête dans une autre ville où il y avait la fête de la ville. Ah, c'était extrêmement joyeux. Mon père était heureux, tout le monde était heureux. Évidemment, ma mère nous manquait, mais tout le monde a adoré. Et moi, 2 mois après, je tombe enceinte, donc de mon fils Luca. Il naît aux États-Unis le 14 juillet 2018. Notre vie commence, on est super heureux. Les parents de Pedro sont très heureux d'avoir un petit-fils, surtout son père, il est très gaga, ils viennent nous voir, ils nous aident. C'est très famille, c'est comme un peu comme la culture italienne, on est très les uns sur les autres, mais on s'aide. Donc moi j'adore. J'adore ça, on rentre à Noël, c'est pareil. Et sauf qu'en mai 2019, donc on est en vacances à Cuba avec mon fils, et mon beau-père nous appelle pour nous annoncer qu'il a un cancer de la gorge. Donc là on tombe un peu des nues, puisque on pensait déjà avoir assez souffert avec ma mère. Et on décide d'aller en Espagne, en fait. On passe 2 mois en Espagne pour le soutenir pour la chimio. On nous dit que tout est soigné. Sauf qu'en fait, très vite, en novembre 2019, on apprend que c'est parti dans le cerveau. Donc, il a une tumeur au cerveau et qu'il n'y a rien à faire. Et qu'en gros, voilà, c'est juste une question de mois ou peut-être d'années, mais pas grand-chose. Et évidemment, ce qui arrive, c'est que le Covid arrive. Nous, on est bloqués aux États-Unis, puisqu'à l'époque, l'Espagne a un confinement très strict où les gens qui ne sont pas espagnols, même mariés en espagnol, ne peuvent pas aller en Espagne. Donc, ça voudrait dire que mon mari partirait tout seul. Mais bon, à l'époque, le Covid fait peur. Donc, on a peur d'être séparés. On a peur que s'il part, il attrape le Covid, il le donne à son père. Voilà, c'est compliqué. Et quand le confinement se lève et que moi, je suis autorisée, du coup, à aller en Espagne, on prend l'avion tout de suite au mois de mai. Sauf que mon beau-père décède alors qu'on est dans l'avion. C'est extrêmement dur pour mon mari, surtout qui voilà, se sent extrêmement coupable de ne pas avoir pu accompagner son père à la fin, qui le demandait en plus. Et on rentre à Boston en août 2020 et c'est une année difficile pour notre couple parce qu'il y a beaucoup à assimiler. Il y a eu le Covid, il y a eu la mort de son père. Moi, je me suis beaucoup occupée de mon fils toute seule. Du coup, les mois, on était en Espagne puisque lui devait chercher du travail, s'occuper de sa mère, voilà, de plein de choses. Donc c'est difficile. Notre couple en prend un coup. On a du mal à surmonter ça. Il y a beaucoup de disputes, mais on s'aime toujours très fort. Et un an après, en juin 2021, ça va mieux entre nous. On a réussi à apaiser les choses et on décide donc du coup de faire notre enfant. On a notre deuxième petit garçon, Milo, qui est né en mai 2022. Milo a 1 an maintenant. Luca va bientôt avoir 5 ans. Eh oui, donc c'est pas facile tous les jours, évidemment. On a des fois aussi des disputes par rapport à des différences culturelles. On prévoit de rentrer vivre en Europe, certainement en Espagne bientôt. Voilà, et moi, à chaque fois que je suis en Espagne, là, on est en Espagne actuellement, et je vois que quand même, je vais avoir du mal à m'intégrer, que c'est encore une autre culture. Maintenant, je me rends bien sûr compte que, en fait, j'ai reproduit un peu l'histoire de mes parents différemment, mais je l'ai reproduit. Et le parallèle que je fais, c'est que je me dis que ça a dû être dur pour mon père. Je me rends compte que maintenant, beaucoup de disputes qu'ils avaient étaient en fait des disputes liées à une différence culturelle. Et donc, je me dis que ça n'a pas dû être facile du tout pour mon père de s'intégrer. Il l'a fait par amour, mais je pense qu'il en a bavé. Pedro et moi, on est partis ensemble. Donc, on était 2 personnes. Étrangères dans notre couple, mais en plus étrangers aux États-Unis ensemble. Donc ça a été plus facile en fait, je pense, parce qu'on s'est soutenus l'un l'autre. C'est vrai que là, si on rentre en Espagne, la dynamique va être différente. Lui va rentrer dans son pays. C'est moi qui vais être entre guillemets l'étrangère et qui vais devoir m'intégrer. Mais en même temps, je changerais ça pour rien au monde. Moi, j'ai vu mon père aimer ma mère, mais passionnément, à la folie. C'est-à-dire, même aujourd'hui, ma mère est décédée et il aime toujours ma mère. Et je pense que dans les personnes qu'il rencontre, il cherche toujours encore un peu ma mère. Il a tout quitté pour elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en France, mais c'est pour ma mère. Et voilà, et d'avoir vu mon père aimer ma mère si fort, moi je suis pareil, moi j'aime Pedro très très fort, je l'aime, c'est presque passionnel, mais parce que je pense que c'est ce que j'ai vu en fait. J'ai vu mon père couvrir ma mère de cadeaux, et ma mère aussi, hein. Mais j'ai vu ma mère être traitée comme une princesse, et à sa façon, différemment évidemment, parce que mon père était quand même, peut-être c'était trop excessif. Pedro me traite aussi comme une princesse aujourd'hui, je suis une princesse, et je sais qu'il ferait tout pour moi. Si je suis mal, si j'ai besoin de temps pour moi, il s'occupe des enfants, il n'y a jamais de soucis. Et en même temps, je vois la chance que c'est, puisque mon grand garçon, donc Luca, aujourd'hui, il parle 3 langues. Français, espagnol, anglais. Je veux dire, quel enfant à 5 ans a cette chance? Il a une chance inouïe. Et il connaît 3 cultures. Je suis fière de me dire qu'eux aussi, ils seront ouverts au monde, ils seront ouverts aux autres cultures et ils n'auront pas peur. Je pense que notre histoire, elle est quand même assez singulière. Mais après, c'est mon histoire, donc évidemment, je trouve qu'elle est belle. Mais je veux témoigner pour montrer que voilà, que c'est possible, qu'un couple biculturel, ça peut marcher. Qu'on peut élever nos enfants dans un couple biculturel tout en respectant la culture de l'autre. Nous, il n'y a jamais de bataille à la maison entre quelle culture est la mieux ou la plus forte. C'est un beau mélange des 2, même des 3. Et je voulais témoigner pour ça, pour montrer que la différence ne doit pas faire peur, que la différence, c'est quelque chose justement de très enrichissant.
Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.